vous m'en direz tant ?
C'est la mode dans le monde de l'enseignement. On pratique l'éducation aux médias. A priori, la pratique de l'éducation semble y aller de soi, mais que dire de l'éducation aux médias ? L'éducation nationale ne serait-elle pas elle-même un média ? Le serpent se mordrait-il la queue ? En fait, cette formule est peut-être malheureuse, et en tout cas, elle recèle pas mal d'hypocrisie. Le but finalement poursuivi est de mettre en garde les jeunes contre les fausses nouvelles répandues largement sur les réseaux sociaux dont ils usent abondamment et en qui ils ont une confiance un peu trop aveugle. Ce n'est pas le média qui est en cause, mais ce qu'il véhicule. Et notre système éducatif est bien dans son rôle lorsqu'il s'agit de fortifier chez les élèves le sens critique. Tâche dont il ne s'acquittait pas si mal depuis des décennies, à coup de formation à la logique, à coup de cours de philosophie. Il semble que ces valeurs soient soudain submergées par la déferlante Internet. Était-elle donc si fragile ? Derrière ce nouveau combat de nos fameux hussards noirs de la République, il faut deviner la lutte entre l'information et la communication. Mais déjà, comment définir ces concepts ? C'est peut-être plus facile pour la communication. La communication est quelque chose de donné au monde. Comme on dit, à cheval donné, on ne regarde pas la dent. On remercie ceux qui communiquent pour les renseignements qu'ils nous donnent si généreusement. L'information, elle, ne serait pas donnée. Il faudrait aller la dénicher parfois, à moins qu'elle veuille bien s'offrir à nous de manière naturelle. Mais rien n'est simple. La nature nous offre des informations, mais elles sont souvent incompréhensibles en elles-mêmes et doivent être analysées, décryptées, explicitées, toutes manœuvres qui ne sont pas sans risque de les dénaturer, justement. C'est en principe le rôle de la science, mais la science, c'est difficile pour le commun des mortels. Traditionnellement, les journalistes étaient chargés de fournir de l'information. Ils sont de plus en plus débordés par, d'un côté, notre appétit d'information et de l'autre, la complexité croissante du monde qui nous entoure. Normalement, un journaliste devrait être un enquêteur. On parle alors de journalisme d'investigation, denrée de plus en plus rare. Mais alors même que les enquêteurs de police, par exemple, peinent à faire émerger une information fiable, et ce avec des moyens tout de même considérables, les journalistes ne disposent pas de moyens suffisants, comme l'interrogatoire, la perquisition, ils n'ont que très difficilement accès aux données signifiantes. De plus en plus, ils en sont réduits à relayer les informations qui leur sont données par la police, la justice, les scientifiques, les autorités de ceci ou de cela, l'autorité en général. Finalement, ils nous informent de ce qu'on a bien voulu leur communiquer. Nos chiens de chasse sont devenus des perroquets. La communication est un effort, un travail fourni, et tout travail mérite récompense. Celui qui fait l'effort de communiquer a le plus souvent un intérêt à le faire et à le faire de la façon la plus profitable pour lui. La communication prend parfois le nom de publicité, de propagande, mais lorsqu'elle n'est pas caractérisée de manière aussi catégorique, elle reste entachée d'une sorte de péché originel qui réside dans l'effort même qu'elle a nécessité. Les communicateurs sont-ils des menteurs ? C'est subtil. Il y a tellement de façons de mentir. Remarquons qu'il n'est pas interdit de mentir en général, sauf si on le fait avec la volonté de nuire à quelqu'un. Par exemple, il n'est pas interdit de vanter un produit. On pourrait arguer que promouvoir ce produit nuit à la vente des produits concurrents. La loi ne se mêle pas de cela. Le mensonge politique reste également hors la loi, et c'est logique, puisque la loi est faite justement par ceux qui ont menti avec plus d'habileté que les autres et par là réussi à se faire élire. Nous vivons, et pas si mal, depuis des siècles avec ces paradoxes. On fait la somme algébrique de tous les mensonges qui nous entourent et qui se contredisent le plus souvent, et on obtient ce qui est peut-être une sorte de vérité. La nouveauté, et là c'est bien le média lui-même qui est en cause, est dans le flot de communication. On réussissait pas si mal à se frayer un chemin dans la qualité de ce qui nous était donné. Nous voici maintenant confrontés à la quantité. Et trop, c'est trop. Car il faut du temps pour exercer son esprit critique, et déjà pour l'acquérir. À peine est-on en présence de ce qui pourrait être un mensonge, qu'il s'avère que des millions de personnes ont déjà relayé ce potentiel mensonge. La tentation de leur faire confiance voisine avec la crainte d'être isolé dans son petit jugement personnel. Un autre problème se situe dans la substitution progressive et semble-t-il inexorable de l'image à l'écrit. La logique, donc l'esprit critique, s'est forgée depuis longtemps sur l'écrit et la parole. Mais nous ne savons pas encore bien analyser les images. « Je ne crois que ce que je vois », disait l'autre, saint Thomas, je crois. « Mais ce que je vois n'est qu'une photo, qui, par définition, a été prise d'un certain point de vue. » qui ne montre qu'un instant, et que de plus en plus facilement on peut falsifier. Et là encore, cette photo, on la voit partout, à toute heure, sur toutes les chaînes de télévision, à croire qu'il n'y a qu'un seul photographe dans l'univers. Mais revenons à l'éducation aux médias. Comme beaucoup de radios, soi-disant libres mais sûrement associatives, Résonance a fait dans ce domaine. C'était des ateliers radio, où des collégiens venaient réciter devant nos micros ce qu'ils avaient écrit sur tel ou tel sujet. On leur expliquait vaguement comment fonctionnait une radio, et ils étaient un instant confrontés à une situation inédite pour eux, parler à quelqu'un qu'ils ne voyaient pas, et peut-être pire, parler à tout le monde, et non plus à leurs proches, avec qui ils avaient des connivences de langage ou de gestique. En réalité, on leur apprenait un nouveau moyen de communiquer et éventuellement à se valoriser de cette communication. Mais une vraie éducation aux médias consisterait à chercher qui est actionnaire ou parfois propriétaire de tel ou tel journal, telle ou telle chaîne de télévision, qui est le patron de Google, de Twitter, comment ces gens gagnent-ils leur vie, combien ils payent d'impôts. Après quoi, on leur dit aux élèves quel est le salaire d'un journaliste du Berry républicain. Vous savez, ce truc que lit religieusement leur grand-père. Très important également, quel est le coût en énergie et le réel impact écologique de leurs échanges de postes ou de tweets ? Qui paye finalement pour ce qui leur semble gratuit ? Un peu compliqué peut-être ?